Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique pour vous parler d'une œuvre religieuse d'un compositeur français, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Charles Gounod. Gounod, c'est ce compositeur, je vous l'ai dit, français, qui est né en 1818 à Paris, qui est mort à Saint-Cloud à l'âge de 75 ans en 1893. C'est un compositeur que l'on connaît surtout pour ses opéras, je citerai évidemment Faust, Mireille, Roméo et Juliette, mais il a écrit également des symphonies et des messes, et c'est justement cette messe que nous allons entendre, qui a été entendue pour la première fois le 22 novembre 1855 dans la fameuse église Saint-Eustache à Paris, pour la fête dédiée bien sûr à la patronne des musiciens qui est Sainte-Cécile. C'est une messe que Charles Gounod a composée au décès de son beau-père, M. Zimmermann, qui était mort 2 ans plus tôt, en 1853. Et nous allons voir que cette messe reflète parfaitement la situation de la musique religieuse au XIXe siècle. On va voir entre tradition et modernité. Mais je vous propose pour l'instant de commencer tout de suite cette très belle œuvre, donc je considérerais de jeunesse, puisque Gounod avait 27 ans lorsqu'il l'a composé. Au moment où nous le verrons tout à l'heure, il avait passé une crise de mysticisme, puisque même il avait entrepris de devenir prêtre. Et il avait obtenu de l'archevêque de se faire appeler l'abbé Gounod. Puis on va voir que comme Liszt, eh bien, c'est peut-être l'amour de la musique qui va être plus fort que l'amour de Dieu. Mais c'est un compositeur qui a toujours été très marqué par une foi et une piété très forte. On va s'en rendre compte en débutant justement l'audition de cette messe solennelle dite de Sainte-Cécile dans une très belle version, nous le verrons, qui est due à l'Orchestre Philharmonique et au chœur de Prague sous la direction d'Igor Markevitch. C'est une version, je dirais, un peu historique, mais il y a très peu en fait d'enregistrements de cette messe de Charles Gounod et on peut le regretter. Donc je vous propose de commencer tout de suite par le début de la messe, à savoir le Kyrie, au moment où l'on se conçoit comme étant pécheur et on demande pardon à Dieu. Le très beau et recueilli Kyrie du début donc de cette messe dite solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod, une œuvre, je vous l'ai dit, de jeunesse, alors que Charles Gounod a failli être prêtre. Il avait d'abord obtenu le Grand Prix de Rome lorsqu'il était jeune, qui lui permettait donc d'aller en Italie. Et là, il avait redécouvert la musique qu'on écoutait à Rome dans ces années 1840. On redécouvrait Palestrina, il allait beaucoup à la chapelle Sixtine. Il avait découvert aussi la musique de Jean-Sébastien Bach avec Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix. Et donc, lorsqu'il va rentrer d'Italie en 1842, hein, il a juste 24 ans, 25 ans, eh bien, il décide de devenir prêtre. Alors, comme tout grand romantique, un peu à l'image de Franz Liszt, eh bien, il va aller au séminaire, il va recevoir ce qu'on appelait à l'époque les ordres mineurs, qui lui permettaient d'obtenir de l'archevêque de Paris le titre d'abbé. Et puis, nous allons voir, eh bien, que peut-être, encore une fois, l'opéra était plus fort que la foi. Mais ce qui est certain, c'est que cette messe, même si elle est écrite alors que Charles Gounod a commencé une carrière de compositeur officiel, eh bien, montre encore une fois la très grande foi de ce compositeur qui a connu une période, on va dire, difficile, justement, entre cette foi, cet amour de la chair. Il était vraiment dans des états même dits dépressifs. Et puis, heureusement, il va épouser une jeune femme qu'il va adorer, avec qui il va avoir des enfants et qui va lui donner l'occasion de devenir un grand compositeur. Alors, on continue dans cette messe qui, encore une fois, montre bien toute cette recherche au milieu du 19e siècle. On veut retrouver une certaine pureté musicale. Et c'est comme ça que nous allons voir qu'on va osciller entre une musique presque de plein chant, comme on a entendu un peu ici, et puis une musique, vous verrez par moments, qui est un peu plus, j'allais dire, un peu plus ornementale et très belle. En tout cas, c'est un grand orchestre qui doit jouer cette messe avec quelques passages d'orgue que vous allez entendre, et puis il y a trois voix de solistes, une soprano, un ténor et une basse, que nous allons retrouver maintenant dans la partie, je dirais, qui affirme la foi, puisque c'est la gloire de Dieu, et qui montre là encore comment Gounod est en train de faire des recherches. C'est ça qui est très intéressant. Le Gloria, vous allez voir, il commence presque de manière calme. Il y a la soprano qui va chanter sur un chœur qui va être presque feutré, ce qui est un petit peu en contradiction avec l'affirmation de la gloire de Dieu. Mais vous allez voir, ça donne quelque chose d'assez beau et d'assez théâtral. Voilà une fin, on va dire, plus marquée pour ce Gloria, extrait donc de cette messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod, avec les trois solistes que je vous présente maintenant. C'est Imgard Seefried, soprano, Gerhard Stolz, qui est ténor, et Hermann Hunde, basse. Il faut dire qu'on ne va pas les entendre beaucoup, parce que dans la messe, c'est le chœur qui est vraiment le personnage principal. On a un grand orchestre, je vous l'ai dit, quelques passages d'orgue par moment pour souligner certains accents, mais on a comme ça une couleur très belle qui fait un peu penser, toute proportion gardée bien sûr, à la pureté du chant grégorien. C'est normal parce que c'est à ce moment-là aussi, dans ces années 1840, qu'on va se préoccuper de retrouver, j'allais dire, la musique presque originelle de l'Église et notamment tous les travaux autour du chant grégorien, tout autour de cette musique qui fait que cette messe, encore une fois, est très intéressante parce qu'elle fait la synthèse entre cette tradition qu'on retrouve d'une certaine antiquité musicale et puis la modernité finalement du 19e siècle. Alors je vous propose de continuer de découvrir cette très belle messe que nous n'allons pas pouvoir écouter en intégralité, mais on va en entendre un très très grand passage. Et maintenant nous allons entendre le credo qui lui aussi est découpé en plusieurs sections. Un credo, vous allez voir, qui commence là encore avec des basses un peu répétées. Et puis évidemment, lorsqu'on va parler de la résurrection du Christ, évidemment là, vous allez voir là encore la couleur en quelque sorte musicale va apparaître. C'est encore une fois l'orchestre tchèque et les chœurs de Prague qui sont dirigés par Igor Markevitch qui nous donne cette très belle et très attachante version d'une œuvre qu'on n'entend jamais. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que cette messe mérite vraiment tout notre intérêt. La messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod. La conclusion de ce très beau credo, qui est presque la pièce centrale, finalement, martiale, de cette messe de Sainte-Cécile de Charles Gounod, interprétée, je vous le rappelle ici, par le chœur et l'orchestre de Prague, sous la direction d'Igor Markevitch, avec Ingmar Seyfried, Gerhard Stolz et Hermann Hunde, qu'on entend un peu, mais pas trop. Alors cette messe, elle s'inscrit, je vous l'ai dit, dans une crise un peu de mysticisme de Gounod. Pour rappeler très vite un peu la biographie de Gounod, je vous l'ai dit, il naît à Paris en 1818, son papa est peintre, mais malheureusement, il va mourir lorsque le petit Charles-François n'a que 5 ans. C'est la maman qui, pour survivre et faire vivre les deux enfants Gounod, eh bien, va devenir professeur de piano et elle sera évidemment le premier professeur de son petit Charles, qui va très vite faire ses classes au lycée Saint-Louis, qui va suivre les cours du conservatoire, notamment avec le fameux compositeur Antoine Reicha. Il va aller travailler avec Halévy, qui est le grand compositeur officiel de l'époque du grand opéra, au conservatoire de Paris. Et puis, très important, en 1839, il est donc très jeune, il réussit à obtenir le Grand Prix de Rome qui va l'emmener pendant 3 ans à Rome. Et c'est là, je vous l'ai dit, à partir de 1840, qu'il va découvrir à la fois l'architecture, la peinture, mais aussi la musique religieuse italienne. Et il va commencer à découvrir également le monde de l'opéra. Il va adorer la flûte enchantée de Mozart. Et lorsqu'il va revenir à Paris, il va avoir une sorte de poste de maître de chapelle, on peut le dire quand même, en l'église des missions étrangères à Paris. Il va, je vous l'ai dit, pendant une courte année, porter la soutane, se faire appeler l'abbé Charles Gounod. Et puis en 1848, après avoir pourtant écouté le grand prêtre théologien Lacordaire à Notre-Dame, après les journées révolutionnaires, il va renoncer finalement à la vocation sacerdotale et il va quitter les missions étrangères. Très vite, grâce notamment à la grande chanteuse Pauline Viardot, il va obtenir des premières commandes, un opéra qui n'aura pas de succès qui s'appelle Sappho. Puis ensuite, il essaiera d'écrire encore des opéras. Le médecin malgré lui en 1859 va être véritablement le début. Et puis, il faut bien dire, avec Faust en 1859, on peut dire que Gounod est devenu extrêmement célèbre. Il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Mais vous allez voir que c'est un compositeur original parce que, alors qu'il a jusqu'à présent respecté un petit peu l'orthodoxie, si je puis dire, de la messe, l'offertoire, figurez-vous que l'offertoire, il n'y a pas de paroles. On a supprimé les paroles de l'offertoire parce que Gounod a préféré en faire une partie pure orchestrale. Donc je vous propose de découvrir ce curieux entre guillemets offertoire où il n'y a pas de parole mais il y a simplement de la musique. cette courte page musicale, orchestrale, donc, qui est l'offertoire, qui sépare le credo de la section suivante, bien sûr, dans une messe, évidemment, le Sanctus et le Benedictus. Comme nous ne pouvons pas entendre la messe dans son entier, je vous propose de découvrir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire le Benedictus. Vous allez voir, là encore, on a ce mélange tout à fait étonnant entre une musique qui se veut presque aux origines de Palestrina, avec ce plein chant, presque ce grégorien, et puis quand même cette grande sensibilité du XIXe siècle. Sensibilité qui n'a trompé personne, puisque on verra que Gounod, à côté de sa production lyrique très importante, va être un professeur estimé du conservatoire, qu'il va avoir des élèves qui vont éminemment le respecter, comme Bizet, comme Massenet, comme Fauré, qui auront une profonde affection pour leur vieux professeur Charles Gounod. Donc je vous propose maintenant de découvrir la deuxième partie, c'est-à-dire le Benedictus, extrait de cette messe solennelle, qui, je le rappelle, est une œuvre de jeunesse que Charles Gounod a fait entendre pour la première fois en 1855. Nous sommes en plein Second Empire français. Donc cet étonnant finalement fin de Benedictus de la messe solennelle de Sainte-Cécile, si vous prenez cette émission. Nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Mathieu Ordonneau dans les studios de Radio Fidélité et nous écoutons donc cette fameuse messe dite solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod. Nous allons maintenant entendre la News Dei avec une particularité qui montre à quel point Gounod finalement était un homme de foi. Figurez-vous qu'il a osé, entre guillemets, rajouter des paroles au texte de la messe. Ça ne se fait pas. Eh bien, lui, il a décidé de le faire. Et dans son Agnus Dei, il va rajouter, entre Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, eh bien, il va rajouter cette très belle phrase. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu pénètres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Et mon âme sera guérie, qu'on dit évidemment à la messe, mais pas à cet endroit-là. Et donc, très curieusement, vous allez voir comment Charles Gounod personnalise, si je puis dire, le texte de cette messe qui, encore une fois, montre la très grande foi de celui qui a failli être prêtre, mais qui n'a été que momentanément l'abbé Charles Gounod. Après les années de triomphe avec ses opéras, en 1870, pendant la guerre, Gounod partira en Angleterre, d'où il reviendra en 1874 pour terminer une carrière, je vous l'ai dit, à la fois de professeur et d'autorité morale dans le domaine de la musique. Lorsqu'il mourra, c'est l'État qui paiera ses funérailles, considérant que c'est encore une fois un homme qui a donné beaucoup à la patrie. Donc tout de suite, nous écoutons ce très curieux, très beau Agnus Dei de la fin normale, nous allons voir, de la messe de Sainte-Cécile de Gounod. La News Dei qui pourrait, si je puis dire, conclure la messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod s'il n'y avait les trois prières qui ont été rajoutées. Ça se faisait sous Napoléon III de rajouter des prières pour le chef de l'État, pour l'Église, etc. Eh bien, c'est ce qu'a fait Charles Gounod. Il a écrit donc ces textes, hein, prières de l'Église. Seigneur, protège, normalement c'était l'Empire, mais c'est devenu la République. Protège la République, exauce-nous le jour où nous t'aurons invoqué. Il y a la prière de l'armée. Seigneur, protège la République. République et l'armée, et il y a la prière de la nation, Seigneur protège la République, là encore. Alors donc en latin, on a juste changé un nounoum en una pour transformer finalement ce qui se chantait pour l'empereur Napoléon III, puisque je vous le rappelle, cette messe a été créée en 1855 sous le Second Empire, et on voulait à ce moment-là, dans les messes, eh bien, qu'il y ait cette prière de la nation, de l'Église, pour l'empereur. Et Charles Gounod va le faire, évidemment, parce que ça correspond sans doute à sa sensibilité, parce que eh bien, ça se faisait comme ça. Rappelons quand même que pour sa sépulture, Charles Gounod va quand même bénéficier du concours de très grands musiciens, je vous l'ai dit, puisqu'il y aura le 25 octobre 1893 des obsèques solennelles, où il y aura quand même, excusez du peu, Camille Saint-Saëns, Théodore Dubois, Gabriel Fauré, qui seront là justement pour rendre hommage à leur maître qu'ils ont tant aimé. Et on peut dire que Charles Gounod, bien, dans la dernière partie de sa vie, s'était extrêmement consacré à la musique religieuse. Il avait écrit deux très très beaux oratorios qui s'appellent « La rédemption » et « Mors et vita »,« La mort et la vie », qui dataient de 1885, qui sont, il faut bien le dire, pratiquement ses dernières grandes œuvres connues. On sait évidemment de l'amour qu'il portait à Bach et qu'il a utilisé le prélude pour le piano numéro 1, enfin pour le clavier numéro 1, pour écrire bien sûr sa très célèbre Ave Maria sur cette musique de Jean-Sébastien Bach. Mais pour l'instant, je vous propose donc de découvrir une petite curiosité historique qui est donc cette prière hein, qui se joue à la fin d'une grande messe solennelle. Et bien là, donc la prière de l'Église, la prière de l'armée, la prière de la nation, vous allez voir, c'est assez coloré.
Amen.
Voilà qui donne tout à fait le qualificatif de messe solennelle, dite de Sainte-Cécile à cette messe de Charles Gounod, parce que nous avons entendu quelque chose qu'on ne peut plus entendre depuis la séparation de l'Église et de l'État, c'est d'avoir quand même cette prière de l'Église, prière de l'armée, prière de la nation qui dit texto, je cite, « Seigneur, protège la République et exauce-nous le jour où nous t'aurons invoqué ». On n'est pas prêt de l'entendre maintenant dans les églises avec la laïcité, mais en tout cas, c'était une très belle prière qui conclut cette très belle œuvre religieuse de Charles Gounod, je vous le rappelle, interprétée ici par les solistes Ingvar Zefrid soprano, Gerhard Stolze ténor, Hermann Hunde bass, les chœurs de Prague et l'orchestre philharmonique de Prague, placés sous la direction d'Igor Markevitch. J'étais heureux de vous faire découvrir, je l'espère, cette œuvre en compagnie de Mathieu et nous nous retrouverons bien sûr dans les locaux de Radio Fidélité pour de nouvelles découvertes ensemble.